La CBC à Don Cherry.
Bonjour, Mala B. Dan.
Dans l'avant-match, on a le coach. Éric Lavigne.
Salut, Éric, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci, toi, Dan.
Oui, oui, ça va bien, merci. Un soir, là, comme ce soir, on dit qu'à 19h28, on commence les cérémonies, puis on présente les joueurs qui ont gagné la Coupe en 93, puis l'ovation pour Jacques Demers. Un match comme ça, que ce soit ce soir ou n'importe quel match d'ouverture, est-ce que c'est l'équipe locale qui est avantagée par le spirit qu'on donne dans les présentations d'avant-match, ou c'est l'équipe visiteuse parce qu'eux autres, souvent, ils restent dans le vestiaire puis ils n'ont rien à foutre des présentations, puis ils n'ont pas d'émotion, puis ils sautent sur la glace, puis les 5-6 premières minutes, c'est l'équipe visiteuse qui a l'avantage. À qui tu donnes l'avantage, Éric?
C'est souvent partagé. Je pense qu'il faut regarder quel genre d'équipe que tu as. Il faut regarder, je te dirais, quel genre de début de saison que tu as, parce que tu as le premier match officiel de ta saison au complet. T'en viens-tu comme Canadien rendu à ton troisième match?
Okay.
C'est sûr que le Canadien ne rentre pas avec le même état d'esprit ce soir en étant à 3-4 plutôt que de se présenter à la maison avec 0-2. Mais c'est toujours de voir la façon que ta foule va réagir. Sauf que peu importe le match d'ouverture, il y a tellement d'excitation, Dan. C'est toujours une des plus belles journées de l'année pour un joueur de hockey, pour un coach, pour une organisation. Il y a une fébrilité qui ne s'explique pas. Le fait de venir pour la première fois à maison devant tes partisans, il y a une adrénaline qui monte que tu n'as pas l'habitude d'avoir en saison régulière, que tu ne retrouveras pas avant les matchs des séries éliminatoires. C'est que le Canadien, c'est un match comme ce soir, parce que si on sort des statistiques, toute proportion gardée, si on tient compte que normalement l'avantage va quand même aux équipes qui jouent à maison dans saison régulière, je pourrais pas dire que c'est un avantage ni pour un ni pour l'autre pour les raisons que tu viens de donner. À savoir qu'il y en a qui deviennent trop excités, viennent trop sur un high, ils ne jouent pas leur game et sortent complètement de leur plan de match. Tandis que quand tu arrives souvent avec une équipe à maturité, mais c'est trouver une façon de leur donner l'étincelle qui va faire en sorte qu'ils vont bien performer. Une équipe comme le Canadien ce soir rentre, ils ont des choses à se faire pardonner de un. De deux, sont très satisfaits de leur début de saison jusqu'à maintenant, mais c'est toujours le danger de tomber dans la complaisance. C'est que c'est dur de dire c'est l'avantage de qui. Ça dépend contre qui tu joues, l'équipe contre qui tu joues, à quelle fiche. Mais au bout de la ligne, ce que je retiens d'un match d'ouverture, c'est comment ça peut être le fun. La journée que tu t'habilles et que tu mets ta cravate pour t'en aller à l'aréna, il y a de quoi de différent dans ce premier match-là. Quand tu embarques en arrière du bain ou quand tu sautes sur la glace, que ce soit dans la période d'échauffement ou au début de la cérémonie, ça s'explique pas, puis c'est tellement un beau moment, c'est pour ça que le sport est si beau.
Éric, t'en as coaché des games de hockey dans ta vie. Le Canadien de 93, après avoir perdu au premier match ici à Québec sur un but de Scott Young, a gagné les 10 matchs suivants au cours duquel il a joué en prolongation. C'est une série qu'on verra peut-être même plus dans le hockey.
Non, une série de 1, le niveau d'émotion, tu affrontais... Je pense encore que ça reste la plus grosse rivalité qu'il y a eu dans le monde du hockey. Donc, le niveau de rivalité, on va se rappeler que ça causait des chicanes dans les familles. Des fois, tu peux même pas aborder le sujet autour de la table. C'est que c'est d'avoir vu ce qu'on a vu là, le niveau de rivalité qui était à son summum. Le fait qu'un club tire de l'arrière revient. Au bout de la ligne, va gagner la Coupe Stanley. Toute l'histoire autour de ça. Je peux pas faire autrement en plus de penser ce soir à Jacques Demers, que j'ai bien connu, puis qui va être là ce soir. Moi, j'ai une anecdote avec Jacques Demers. J'ai appris à le connaître quand j'ai travaillé pour l'Organisation du Canadien.
Okay.
Cet homme-là, ce soir, va avoir une ovation monstre, parce qu'évidemment, on connaît ses problèmes de santé. Mais au-delà de ça, c'est la qualité de l'homme. T'sais, on a tous lu son livre, on est impressionnés par son parcours. Mais quand les joueurs, puis plusieurs des joueurs vont en parler ce soir, puis ils vont commencer à parler de ce qu'était Jacques Demers pour eux, moi, je me souviens qu'après l'avoir connu, quand je coachais à Val-d'Or, notre équipe on était dans une très, très grosse période creuse. J'avais appelé Jacques Demers, puis j'avais demandé à Jacques s'il acceptait de venir rencontrer notre équipe pour parler aux joueurs de comment sortir d'une léthargie, comment garder confiance. On était parti de Val-d'Or, puis on couchait à Laval ce soir-là. Puis Jacques Demers avait accepté de venir rencontrer l'équipe à l'hôtel à Laval pour parler à l'équipe. Puis si tu avais vu dans la façon que ce gars-là avait de parler à des joueurs, on était dans une chambre d'hôtel, dans une suite à l'hôtel où il faisait un speech aux joueurs. Et tu pouvais pas t'imaginer à quel point il pouvait venir te chercher à l'intérieur puis d'avoir donné l'impression d'avoir le goût de jouer pour lui. Puis quand je me rappelle quand on avait fini cette discussion-là, il avait passé pratiquement une heure et demie avec nous, les gars avaient eu le goût de sauter sur la glace puis d'aller défoncer les bandes. Puis les gars ne le connaissaient pas du tout. Il y avait même des joueurs qui ne le connaissaient pratiquement pas. Lui, il ne connaissait pas aucun de nos joueurs. Mais quand il venait parler de son cœur, quand il venait parler de ses tripes, tu es capable d'imaginer comment il s'est comporté en 93 l'année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Puis je t'en parle aujourd'hui, puis j'ai encore le frisson. Je réentends ce qu'il disait aux joueurs. Je le voyais en avant, puis je voyais le côté humain de ce gars-là. Puis quand on voit comment il a pu regrouper cette équipe-là pour gagner la Coupe Stanley, tu te dis comment des fois un coach peut faire la différence. Jacques Demers l'a fait, ça. C'était vraiment à cause de qui il était comme homme et ce qu'il dégageait comme homme. Parce qu'il disait lui-même, il n'était pas le plus grand tacticien ni le plus grand technicien. Mais sa façon de venir chercher ce qu'il y avait à l'intérieur d'un joueur d'hockey, même si on ne jouait pas pour lui, il était venu donner cette conférence-là de façon tout à fait bénévole. Il était venu, il n'avait rien voulu savoir qu'on lui donne un cadeau, qu'on le récompense. Mais tu ne peux pas savoir comment ça a pu faire grandir des joueurs d'hockey et que ça a pu faire grandir un coach comme moi.
Wow, je suis tellement content que tu racontes ça ce soir aux auditeurs qui sont à l'écoute de l'émission parce que tu traduis bien ce qu'est Jacques Demers, l'homme. Je l'ai rencontré quelques fois parce que Jacques Demers, évidemment, est un bon ami d'Alain Crête parce qu'ils ont eu à travailler à la description et à l'analyse des matchs des Nordiques à l'époque. Souvent, les gens l'oublient, mais ils ont fait ça deux saisons. Et comme Alain Crête et Gilles était très proche, mais je me suis retrouvé dans des soirées où Jacques Demers était là. Puis c'est exactement, je ne l'ai pas connu autant que toi, mais les fois où j'ai eu un contact avec Jacques Demers, ça a été un contact très humain. Et ça, on ne peut pas dire ça de tout le monde qui est impliqué dans le hockey actuellement, Éric.
Non, puis il y a des gens comme ça qui dégagent dans la vie, Dan, que tu dis qu'ils ont une prestance, ils ont un aura, ils ont quelque chose qui ont le goût de t'attirer. Tu jasais avec Jacques Demers, puis combien de temps il a pris à s'asseoir avec notre staff pour nous vendre aux coachs de ne pas lâcher, d'avoir une approche positive avec les joueurs. Mais en même temps, entre toi et moi, il n'y en avait rien à faire des Foreurs de Val d'Or. Ils ne nous avaient jamais vu jouer. Mais tu as tellement le goût, ces gars-là, de les suivre. Ils ont un charisme. Tu sais, Jacques Demers, c'est une des personnes. J'ai toujours dit, moi, dans ma carrière, la personne avec le plus de prestance que j'ai rencontrée, c'est Serge Savard, le père. Et quand tu es avec lui, c'était tellement impressionnant. Mais la personne avec le plus de charisme que j'ai rencontré dans ma vie, puis tu sens t'en rendre compte, tu te sens aimanté par lui parce que tu te sens tellement important quand tu jases avec lui, c'est Jacques Demers.
Oui.
Fait que ce soir-là, c'est sûr que je vais en avoir les frissons, je suis convaincu que je vais en avoir les larmes aux yeux quand on va voir ce qui va se passer au Centre Bell. Et c'est tout ce qu'il y a de la beauté du sport. Et tu vois une Coupe Stanley qui est gagnée, c'est pas rien une Coupe Stanley. Et c'est des histoires autour des gars comme Jacques Demers.
Absolument. Je lisais cette semaine que Joe Thornton s'est blessé. C'est un gars quand même qui est en fin de carrière. Que Roberto Luongo s'est blessé également. Vétéran gardien de 39 ans des Panthers. On dit, Éric, depuis un an ou deux que la Ligue appartient aux jeunes. McDavid puis Matthews, ils patinent vite. Puis il y a de plus en plus de jeunes. Puis est-ce que ça va être de plus en plus difficile pour des gars plus âgés de jouer? Puis est-ce que la vitesse à laquelle va la Ligue nationale actuellement peut être améliorée encore ou à un moment donné, on va frapper le mur?
On ne frappera pas le mur parce que la qualité de l'équipement s'améliore, mais il y a aussi le style de jeu. Les arbitres sont moins tolérants sur l'accrochage et ainsi de suite. Mais la Ligue appartenant aux jeunes de plus en plus, on voit que de plus en plus, les jeunes font leur place rapidement dans l'alignement et sont capables de se démarquer parce que c'est des joueurs qui ont beaucoup de vitesse aujourd'hui. C'est des joueurs qui se démarquent de par leur façon de circuler avec la rondelle à une vitesse phénoménale qui n'existait pas avant. Je m'en toujours me rappeler d'une discussion que j'ai eue avec Alain Vigneault l'an passé, il y a deux ans, quand il est arrivé en période d'échange. Je suis pas capable de me rappeler un vétéran défenseur ou un vétéran d'attaquant que les Rangers, il y avait de plus en plus de rumeurs qu'il allait le chercher dans une transaction. Puis je lui avais demandé si c'est vrai que ce joueur-là s'en vient chez vous. Il m'avait répondu non, Éric, on va plus chercher les joueurs les plus vieux. La Ligue appartient aux jeunes. C'est les jeunes maintenant qui imposent le tempo. C'est qu'il va y avoir de moins en moins de place pour des joueurs plus âgés qui perdent leur vitesse. Parce que la vitesse d'exécution est plus qu'importante. le nouveau style de jeu avec les nouveaux styles de chez avant, les nouvelles façons de sortir la rondelle, les nouvelles façons de se comporter en zone neutre, même si ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus de ligne rouge, les équipes développent des nouvelles façons et sont moins peureux de sortir la rondelle avec des longues passes, sont moins peureux de sortir la rondelle par le centre de la glace. Mais ça, c'est toutes des choses qui augmentent la vitesse d'exécution et la vitesse du jeu. Donc, pour suivre la cadence, ça va prendre des jambes fraîches, puis ça va prendre des joueurs. On va en avoir de plus en plus des petits gabarits, mais on va surtout en avoir de plus en plus de la vitesse.
Éric, on ne peut pas faire de règle de trois puis dire que, étant donné qu'Austin Matthews a 7 buts en 4 matchs, ben il va en marquer 150. On sait très bien que ça fonctionne pas comme ça. À un moment donné, le temps va le rattraper. Est-ce qu'à l'inverse, un gars qui va mal au bout de 2-3 matchs, on peut aussi dire ça fait juste commencer, comme dans le cas de Jonathan Drouin?
Un gars que ça fait juste commencer, il faut pas que ça dure. C'est ça qui est le problème. Et on se rappellera qu'à Montréal, il y avait un gars comme Pacioretty qui a connu un mauvais début de saison. Et là, à un moment donné, ça vient très, très lourd. Un gars comme Jonathan Drouin pourrait pas être en léthargie trop longtemps parce que la pression médiatique puis la pression que lui va se mettre fait en sorte que tu serres ton bâton encore plus serré et que tu deviens encore plus performant. Puis on sait qu'un joueur qui est pas lousse puis qui devient nerveux, devient moins efficace autour, puis vient même plein de pouces autour du filet. C'est un gars à caractère offensif, parce que Jonathan Drouin, c'est un joueur à caractère offensif qui amène pas beaucoup d'autres dimensions dans son jeu, mais il faut que ce gars-là produise. Et oui, c'est inquiétant. Quand un joueur, 2 matchs, c'est pas inquiétant. Mais quand au bout de 10 matchs, on évaluera, il est rendu où, c'est toujours le danger de s'embourber puis de tomber dans le sort mouvant. Puis plus tu veux t'en sortir, moins tu performes. C'est pour ça qu'il faut, j'y souhaite que rapidement ce soir, il va retrouver sa touche autour du filet pour faire en sorte qu'il ne tombe pas dans un tourbillon de léthargie qui, là, est très, ça serait très, très dur de s'en sortir.
Éric, tu as dirigé longtemps dans l'hockey junior, mais un 11 octobre comme aujourd'hui, en 84, Mario Lemieux marquait dans la Ligue nationale sur son premier tir, à sa première présence et dans son premier match de la LNH. Es-tu content de ne pas avoir eu à diriger contre lui dans le junior?
Oui, content. Ben non, pas content parce que tu veux coacher contre eux autres, mais je peux te dire que j'ai coaché contre Sidney Crosby, puis c'est de la trempe de Mario Lemieux. Mario Lemieux a des statistiques absolument incroyables. Mais quand tu as la chance d'être derrière un banc, t'as le meilleur siège pour voir un gars travailler. Et quand tu peux voir ces gars-là qui ont un talent extraordinaire, je me souviens d'avoir coaché contre les jumeaux Cédine au championnat du monde des moins de 18 ans. Et je vais toujours me rappeler que ces gars-là s'étaient retrouvés à 4 contre 5 contre nous dans le match d'exhibition avant le tournoi. Et ils avaient gardé la rondelle pendant 2 minutes contre nous autres en désavantage. Quand tu as la chance de voir ça, des talents comme les Cédine, quand tu as la chance de coacher contre Crosby, mais tu souhaites avoir pu coacher aussi contre des Mario Lemieux et compagnie, des Gretzky et compagnie, parce que tu as eu le meilleur siège pour voir tout le talent. Et un joueur de talent, peu importe le sport, Dan, c'est tellement beau à voir puis c'est tellement impressionnant. Tu te demandes même des soirs comment est-ce qu'ils font pour être aussi talentueux. Puis c'est encore une fois, comme je disais tantôt, le plaisir du sport, parce qu'on a la chance d'être émerveillé par du talent pur, puis des purs sains, puis ça, on n'aura jamais assez.
Un gros merci à toi, Éric. Bonne soirée.
Merci, Dan.
À bientôt. Éric Lavigne, le coin du coach, chaque jeudi dans l'avant-match. Tout juste avant d'aller à la pause, je veux vous dire que Brady Tkachuk a marqué hier à son 2e match en carrière dans la Ligue nationale. Son frère Matthew avec les Flames avait fait ça à son 4e match. Et leur père, Keith Tkachuk, avait fait ça à son 5e match. Vous savez ce qui réunit les trois? C'est que les trois ont marqué leur premier but dans la Ligue nationale contre la même équipe, les Flyers de Philadelphie. Quel hasard quand même. On s'en va à la pause en écoutant Paul Byron et Xavier Ouellet concernant cette fameuse victoire de la Coupe Stanley de 1993.
La chose que je me souviens, c'est je pense qu'il y avait 10 victoires de prolongation. Alors, pour gagner 10 games comme ça, c'est spécial. Puis, je me souviens de Patrick Roy. C'est un gardien le plus bon en histoire de ligue. Alors, j'étais 4 ans, j'étais jeune, alors je ne me souviens pas beaucoup des games, mais je me souviens de quelques moments.
J'ai vu beaucoup de vidéos par rapport à ça, j'ai vu beaucoup, je connais l'histoire des Canadiens, ça va être quelque chose d'assez spécial de vivre ce moment-là ce soir avec cette équipe-là. À chaque fois qu'on vient ici, on regarde des vidéos du passé, de l'histoire de l'organisation, puis tu le sens dans cette chambre d'hockey-là, dans cette organisation-là que... gagner, c'est très important. C'est quelque chose qu'on essaie de ramener ici.
On vient d'entendre deux jeunes, deux très jeunes joueur de l'édition actuelle qui nous parlait de 93. Au retour de la pause, on va s'entretenir avec un gars qui l'a vécu en 93 comme joueur, Stéphane Lebeau.
93, qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
Ça, c'est l'année que je suis né, ça.